Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment finir avec le manque d'électricité dans nos quartiers? On en parle dans cette émission avec Emmanuel Moussouyou, coordonnateur du COURAP, qui est la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Dites-nous, est-ce qu'il y a du courant dans votre quartier en ce moment? Quelles sont vos préoccupations? Appelez déjà au 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Quelles sont les techniques des recherches d'emploi après l'université? On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec Alain Poutou, expert en ressources humaines et formateur au centre de formation et de réconversion professionnelle. Voilà ainsi présenté le menu d'Okapi Service aujourd'hui. Les thèmes vous intéressent, eh bien, n'attendez pas les dernières minutes. Le standard est déjà ouvert. Composez les 099 706 99 41 pour vous inscrire. Et nous allons vous rappeler juste après pour votre intervention en direct. Debs Vita assure la mise en onde de cette émission. Paul Badanyama assure le direct sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission avec Naomi Mutoki. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Et oui, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui du manque d'électricité en RDC dans nos quartiers. Comment en finir avec ce problème et permettre à un plus grand nombre d'avoir le courant. Vous savez, le manque chronique de courant dans nos quartiers n'est plus une simple nuisance, mais aussi un frein au développement économique et à la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans certains coins de la capitale, les bandits à main armée, les koulounas et autres criminels opèrent par manque d'éclairage public. Par ailleurs, le manque de courant risque de porter un coup dur au développement des entreprises dans la zone économique des Maluku, selon plusieurs observateurs. Alors, quelles sont les solutions concrètes, réalistes et immédiates pour sortir nos villes de l'obscurité, faciliter l'accès à un plus grand nombre à l'électricité? Emmanuel Moussouyou, vous êtes coordonnateur du COURAP, la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Bien, pourquoi l'accès à l'électricité demeure toujours un problème crucial en République démocratique du Congo?
Alors, merci beaucoup pour l'invitation déjà, et aussi pour ce sujet assez important placé dans le débat d'aujourd'hui. Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que le secteur de l'électricité, pour l'actuel gouvernement, est considéré comme étant un des secteurs clés ou un des secteurs prioritaires pour le développement de la RDC. C'est une très bonne chose de voir cela être considéré de tel, Mais le plus grand souci qu'on peut évoquer ici, c'est que ça continue à apparaître comme si c'était un slogan d'un engagement formel que le gouvernement met en place. Cela voudra dire quoi? Quand on parle d'une priorité, cela doit être accompagné de plusieurs mesures. La première mesure, c'est que nous devons avoir une planification claire, une planification inclusive, une planification qui est basée sur les demandes réelles ou sur les réalités qu'il y a sur terrain.
Oui.
Mais malheureusement, dans le secteur de l'électricité, on n'a pas de planification énergétique qui soit claire. C'est la première des choses.
La deuxième?
La deuxième des choses qu'on peut évoquer dans ce contexte, dans ce même contexte, c'est qu'on n'a pas de politique nationale énergétique qui devait normalement orienter ce secteur. Et donc, tout ce qui est en train d'être fait est en train d'être fait sans qu'il y ait vraiment une meilleure coordination. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour avoir Compact Énergie avec l'ancien ministre et autres, mais tout ça, ça reste limité parce que il n'y a pas forcément une bonne orientation. Alors, la chose la plus directe qu'on peut dire, qui touche au fait la question que vous avez posée, c'est que le secteur, depuis plusieurs années aujourd'hui, souffre des financements. Les lois de finances que nous prenons dans le pays n'intègrent pas forcément de façon avancée la question de développement des infrastructures énergétiques qui devront répondre au déficit. Prenons le cas de Kinshasa. La coalition des organisations pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP, qui est l'organisation que je suis en train de coordonner en ce moment, vient de publier un rapport d'enquête menée dans la ville de Kinshasa sur le niveau de satisfaction des populations par rapport à l'accès à l'électricité dans la ville.
Quelles sont les conclusions?
Qu'est-ce que cela révèle?
Oui, qu'est-ce que cette enquête a révélé?
Cela révèle que les populations passent beaucoup plus de temps dans le noir. Dans la capitale, il y a peut-être quelques communes comme Ngaliema en première position, un peu de Gombe, beaucoup plus, qui a d'une manière ou d'une autre un peu d'accès à l'électricité de façon permanente. Mais de façon claire, nous avons justement des communes et des quartiers qui sont complètement dans le noir.
Emmanuel, souvent la SNEL évoque le problème de vétusté du réseau, des câbles, pas de moyens, et puis la croissance démographique, les quartiers qui se développent rapidement, mais les moyens ne suivent pas, etc. C'est ce qui est à la base des coupures intempestives et de manque d'électricité.
C'est qui s'arrête. Cela résume bien évidemment tout ce que je venais de dire depuis tout à l'heure.
Oui.
La question de la planification. Quand on parle de la planification, on doit projeter. On doit se dire, d'ici 10 ans, la ville de Kinshasa aura autant un nombre autant de populations, la demande d'énergie de la ville pourra accroître jusqu'à telle hauteur. Et cela doit se faire suivre par un financement conséquent. Et donc, il n'y a pas de planification, on ne sait pas non plus financer pour refaire ou maintenir les réseaux, pour remplacer des câbles de transformateurs qu'il faut. Et ça, c'est un sérieux défaut, qu'il soit pour la SNEL ou pour les autorités, bien évidemment. Et donc, pour dire que il n'y a pas de planification, il n'y a pas, n'est-ce pas, de financement, il n'y a pas une coordination assez cohérente, et on ne peut pas espérer quelque chose d'aussi fort. Alors, je voudrais prendre un exemple. On venait de voir dans les médias récemment ce qu'on a appelé d'attentat au chef de l'État, n'est-ce pas, à l'aéroport de Ndjil.
Oui, mais quand la coupure d'électricité...
Nous voyageons très souvent.
Oui. Allez-y, Emmanuel.
Nous voyageons très souvent et nous faisons face à ce problème de coupure d'électricité de façon récurrente à l'aéroport de Kinshasa. Oui, mais l'aéroport de Kinshasa fait partie des infrastructures aussi importantes de la ville ou du pays. Normalement, depuis des années, la SNEL ou la RDC n'a pas augmenté la puissance en énergie. On n'a pas construit de nouvelles infrastructures, on a construit Zongo, certes, mais ça ne répond pas aux besoins en énergie que la ville ou le pays a aujourd'hui. La ville de Kinshasa spécifiquement, aujourd'hui a plus ou moins besoin de 500 mégawatts. Alors que dans la ville, au-delà des grandes infrastructures comme l'aéroport, on est en train de construire des nouvelles infrastructures comme le centre financier de Kinshasa, des zones économiques spéciaux, des hôtels qui pullulent, des immeubles qui
Emmanuel Moussouyou,
et tout ça,
Emmanuel Moussouyou, comment,
je trouve pas de réponse.
Oui, et comment expliquer un lieu stratégique comme l'aéroport d'Ndjili peut manquer d'électricité pendant plus de 2 ou 3 heures?
Ça peut s'expliquer parce qu'il n'y a pas assez d'énergie disponible aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Le peu de 500 mégawatts que la SNEL dessert à la ville de Kinshasa est partagé entre le Parlement qui consomme beaucoup d'énergie, les ménages qui consomment, etc. Et donc, on est appelé à manager les peu d'énergie qui soit disponible. Ce qui fait que ça peut être normal de voir qu'il y ait des délestages parce qu'on n'a pas investi dans la production de l'énergie. Vous voyez? Et donc, ça ne doit pas surprendre. Malheureusement, ça surprend parce que c'est le chef de l'État qui est dans cette situation aujourd'hui. Mais en réalité, ce qui doit nous interpeller, c'est de dire, nous devons financer le secteur, nous devons produire de l'énergie. Et il y a cette autre solution qui est proposée, que le réseau Mangaza est en train de porter, celle d'autonomiser les bâtiments publics. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, si à l'aéroport, on arrivait à mettre en place un parc solaire important qui devait couvrir tout le besoin d'énergie de l'aéroport et même au besoin de donner à d'autres infrastructures à côté. Oui, le Parlement de la RDC, si on peut l'autonomiser.
Mais je pense que Emmanuel,
les zones qui prennent beaucoup d'énergie,
Emmanuel Moussouyou,
devait aussi être autonomisé.
Je pense que ces structures doivent avoir, par exemple, des générateurs, des groupes électrogènes qui sont là en cas de coupure d'électricité. Les générateurs peuvent prendre le relais.
Ça peut avoir des générateurs, mais il faut qu'on réfléchisse davantage aujourd'hui à des solutions renouvelables qui doivent normalement être aussi abordables, qui doivent être mieux gérées et faciliter leur développement. Vous comprenez. Aujourd'hui, pour construire une centrale solaire, ça ne devait pas être assez compliqué parce qu'aujourd'hui, le solaire à travers le monde devient la solution la plus moins chère. Et donc, pour moi, ce n'est pas seulement parler des générateurs, mais parlons de l'autonomisation des infrastructures publiques par des solutions renouvelables, moins coûteuses et qui prennent moins de temps pour leur développement.
Bien,
c'est une solution qui est vraiment mise à la portée. Peut-être une autre chose.
Un instant, Emmanuel.
Que je dois mentionner.
Oui, oui, un instant. On va accueillir les auditeurs rapidement et puis vous allez poursuivre. Vous allez poursuivre avec ce que vous êtes en train de dire. On va le temps d'accueillir Platini Mbombo de Mbandaka et Robert Adjoku depuis Bounia. Nous parlons du manque d'électricité. Comment en finir avec ce fléau? Appelez-nous au 099-706-9941 pour participer à cette émission. Platini Mbombo, vous êtes en Mbandaka. Bonjour et quelle est votre question?
Je dis bonjour et je salue l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup aujourd'hui pour m'avoir accordé la parole. Je pense que j'ai bien suivi l'invité. Coupure de l'électricité, coupure du courant. Bon, c'est un vrai problème parce que nous tous on a suivi comment l'aéroport international de Ndjili. Le coupure de courant, 2 ou 3 jours, donc ça, vraiment, ça nous a vraiment dit beaucoup de choses. Alors moi, je reviens à l'édité, parce que l'édité parle ce qu'il a dit, mais moi, je pense que la SNEL, c'est une société publique de l'État, qui est aussi tout dans d'autres différentes provinces, mais si aujourd'hui, si ça fait, il y a des coupures de courant, mais dans nos différentes provinces, ça sera comment? Je prends le cas comme l'a dit de Mbandaka, où le courant, ça donc, je ne sais pas, il y a si je fais l'estimation, je vais vous dire que c'est au moins à 25% de la population qui vit avec le risque de la SNEL. Mais la SNEL existe. Mais tout ce qui est comme les matériels, les groupes, tout ça, apparemment, c'est d'âge et il faut mieux qu'on change. Alors moi, je voudrais que tu poses la question à M. l'invité. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter cette hémorragie? Parce
oui, Platini, dites-nous oui. Là-bas en Bandakar, oui. Vous avez le courant de la SNEL toute la journée ou c'est de quelle heure à quelle heure?
Pas le courant de la SNEL, il n'y en a pas. Ici en Bandakar, le courant de la SNEL, il n'y en a pas. Mais au moment que je parle avec vous, je ne suis pas moins de 30 mètres de la centrale de l'électricité, ici dans la ville de Bandakar. Ici, il n'y a pas courant. Et ici, dans la ville de Bandakar, tout le monde se mobilise à avoir des batteries, des panneaux, l'éclairage. Mais le courant de la fenêtre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mmh. Et ça ne fonctionne pas pendant au moins une semaine. Ça peut faire au moins dans une semaine, ça, le courant peut apparaître au moins une seule fois. Et si le sujet c'est la fenêtre, ça ne fonctionne pas. Donc, le courant de la fenêtre à la vie de Manaka, ça ne fonctionne pas comme il se doit. À l'époque, oui, mais maintenant, là, on pose la question d'où vient ça, on ne sait pas. Et tout le monde dit que non, on change, on n'a pas de carburant, c'est là tout ça. Voilà un peu ce que c'est. Mais ici, à Bandakar, il n'y a pas. La population vit.
Dans le noir, il n'y a pas de courant. Voilà.
Dans le courant, oui, dans le courant. Bien que le gouvernement nous a aidés avec le clairage public, avec le soutien à ça.
Avec l'énergie solaire.
Voilà. Et aussi, la population suit. Et même sur le plan de l'autonomisation de l'énergie. Vous le savez, il y a des batteries, des panneaux, etc. Tout ça. Mais ça ne fonctionne pas comme il se doit. Ça ne fonctionne pas. Et on se pose la question.
Merci.
Pourquoi ça ne fonctionne pas?
Bien, pourquoi? D'accord. Mais, voilà. Merci beaucoup. Pourquoi la SNEL ne fonctionne pas? Les gens recourent aux batteries, voilà, à l'énergie solaire pour avoir de l'électricité en Bandakar. Robert Adjokou, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour Radio Kapi, Radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale.
Merci beaucoup. Robert, dites-nous là-bas à Bounia, vous avez du courant? Ou bon, du moins dans votre quartier.
C'est le même problème. Il y a Boudana, Solenyama 1 et 2 qui sont mortes.
Ah
alors
oui?
Alors que une entreprise canadienne était prête à refaire toutes ces électricités. Il y a une entreprise qui le fait, mais il y a trop de problèmes. Donc, je salue l'invité. Et c'est le sujet tellement important, tel enseigne que je ne sais pas si vraiment les membres du gouvernement, les sénateurs et les députés sont en train de nous suivre, même la présidente de la République.
Robert.
On ne donne pas l'électricité à sa population.
Oui, Robert. Alors, mais qu'est-ce que les gens de Bounia font? À Bounia, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour avoir de l'électricité?
C'est très compliqué. Il y a les panneaux solaires. Il y a aussi une entreprise qui est en train de faire.
Une entreprise privée.
La ville dans ce sens-là, mais c'est très compliqué. Donc, il aurait fallu qu'on puisse refaire Solenyama 1, 2, Boudana. Dans tous les territoires, il y a les sites hydroélectriques. On peut construire des centrales hydroélectriques conformément à l'approche GAR. On peut même signer les accords avec les personnes physiques ou morales privées. Pour ce qui concerne Aru, Wicha, Djougou, par exemple,
oui.
Il y a la CKFED, les missionnaires allemands. Ils attendent seulement l'exonération des matériels et des personnes qui viendront exécuter ce travail. Mais le gouvernement refuse de donner l'exonération. Pourquoi? Il y a aussi l'église anglicane. Si les gens croient que je trompe, ils peuvent appeler l'honorable révérend président légal de la CKFED et sa grâce Andé de l'église anglicane. Il y a même les missionnaires de l'église anglicane. Je veux dire.
Bien, donc on retient que.
Ils sont prêts à nous aider. Il y a donc la possibilité.
Il y a possibilité.
De rendre la population heureuse. Moi, j'étais étonné en 2004, nous sommes allés trouver Andola, Zambie, qu'on est en train d'utiliser le courant de Inga. Inga qui a une grande capacité. Comment est-ce qu'on peut manquer de l'électricité dans la capitale?
Bien.
Ou dans les grands Bandundu, dans le Congo central? Ça fait la honte. Ce n'est pas possible. Nous avons même découvert que la SNEL vendait le courant au Congo central.
Au Congo Brazzaville, vous voulez dire?
Au Congo Brazza.
Oui.
Et une grosse somme qui avait été détournée, ça fait vraiment la honte. Nous nous sommes posé la question, quelle est la contribution de la SNEL au budget de l'État? La SNEL existe seulement à Kinshasa? Est-ce qu'elle existe dans les provinces? Non, ça fait la honte. Est-ce que le service de l'énergie fait correctement son travail?
Merci Robert.
C'est possible, il y a possibilité. Le Dieu nous a tout donné, il y a possibilité de développer ce pays. J'ai la conviction dans moins de 5 ans.
Merci.
Il n'y a pas la volonté politique.
Merci Robert.
Les gestionnaires de ce pays à tous les niveaux sont distraits, les gens sont distraits.
Merci
ils
Robert, l'invité.
Pour procurer du bonheur au peuple congolais.
Merci beaucoup Robert, l'invité va répondre à cette préoccupation-là. On va prendre Roger Marcel des Kananga, d'ailleurs qui va nous parler un peu du projet Katende, les chutes Mbombo, comment ça évolue. Roger Marcel, bonjour.
Bonjour monsieur Jeudi. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je pense qu'il y a Kananga, je viens de totaliser à peu près 2 mois. Et à mon arrivée,
oui.
je n'ai pas constaté vraiment la SNEL sur le terrain. Lorsque j'ai eu à poser des questions auprès des gens, les gens me disent non, à Kananga, pour utiliser un peu la SNEL, au moins les gens qui ont vraiment des moyens par rapport aux factures que la SNEL fait sortir.
Et à Kananga, la SNEL fournit
le courant.
Roger Marcel, et à Kananga, le courant est envoyé à quelle heure? Vous avez le courant de la SNEL à partir de quelle heure?
Ça vient et puis on coupe à 22h.
Ça vient à quelle heure?
Avec le courant, c'est vraiment difficile. Parfois, ça devient dès qu'il est 8h, vous avez ça pendant la journée jusqu'à 3h. De 13h jusqu'à 22h.
Ok.
Ouais, ça dépend aussi des lignes. Mais parfois, les gens aussi utilisent aussi le panneau solaire pour utiliser un peu le courant. Il y a aussi des individus qui ont aussi leur projet avec du moteur. Lorsque vous prenez ça, vous utilisez ça pendant 7h. Ça commence à partir de 8h jusqu'à. Il y a une pause à 14h. On répare à 16h, de 16h jusqu'à 21h. Là, vous payez par jour. Pour les gens de la maison, payent 2100 ou 2500. Pour les gens qui utilisent avec leur cabine, on va même au-delà des 3000 francs. Mais sur le terrain, vous pouvez marcher, mais pendant la nuit, c'est toujours noir.
Il fait toujours noir.
Il y a maintenant un projet là, il fait toujours noir. Avec les gouverneurs, j'ai dit, il y a un projet qu'on a commencé à installer des lampadaires au niveau de l'aéroport jusqu'au sur l'avenue Lumumba. Mais il y a toujours autant de questions qu'on se pose toujours pour les projets des chutes de Mbombo. Comme j'avais dit, j'avais fait une descente là au niveau de chez Mbombo pour regarder comment le projet ça évolue. Mais on a vu les transports qui s'est limité, on s'est demandé. Il y a eu même un député de la province qui a eu même à déposer une question orale avec les bas pour qu'on puisse appeler le ministre qui est chargé pour l'énergie.
Et à Kananga, il y a aussi. Roger Marcel, à Kananga, il y a aussi le projet Anser qui a des panneaux, a installé des panneaux au niveau du côté de l'aéroport et qui était censé électrifier la ville de Kananga. Jusqu'à ce jour, le courant n'est pas encore lancé.
Mais ça, je vous dis que non, à Kananga, s'il y a vraiment quelque chose qu'on attend beaucoup, c'est par rapport au courant. Si à Kananga, on a plus de courant. Parce que même pour suivre même les matchs aujourd'hui, vous devez avoir votre écran à la maison. Donc, vous êtes obligé de se déplacer, d'aller ailleurs pour suivre seulement les matchs. Quand vous êtes dans une province pour acheter même une bouteille, donc vous dépensez 1500 francs. Si je pense que sur à Kananga, on avait quand même le courant, les gens pouvaient venir investir à Kananga. Vous pouvez même acheter même l'eau à 500 francs comme à Kinshasa, on le faisait de chez nous, pour acheter seulement une bouteille d'eau, vous pouvez dépasser 1500 francs.
Merci. Roger Marcel, quelle est la question que vous adressez rapidement?
Vous dépassez beaucoup.
Oui. Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Non, la question que je demande, je pense que non, il faut que notre État congolais puisse beaucoup travailler avec les chutes 4 et les chutes Mbombo, parce qu'on attendait beaucoup pour chutes Mbombo. on ne comprend pas pourquoi les travaux, il y a eu des copies, les travaux ne continuent plus. Pourquoi? Je pense que si on pourrait quand même intervenir avec les chutes et bombes, je pense que la vie des Canadiens sera soulagée. En tout cas,
merci beaucoup pour m'avoir apporté la parole. Bien, merci. Nous parlons de comment en finir avec le manque d'électricité dans nos quartiers. Voilà. Emmanuel Moussouyou, vous êtes coordonnateur du COURAP, coalition, voilà, des organisations pour le suivi des réformes et de l'action publique. Vous avez suivi les différentes interventions. Quelle est votre réaction?
Alors, merci beaucoup, monsieur Jeudi, pour ce tour hein, qui est assez intéressant, qui démontre les réalités qu'il y a dans les différentes provinces. Et effectivement, le premier intervenant ou la première réaction, c'est poser la question si à Kinshasa il y a des listages, qu'en est-il des provinces? Et effectivement, c'est très grave, cher Platini. Parce que déjà à Kinshasa où nous sommes, c'est carrément le point où il y a plus d'énergie disponible. C'est-à-dire toute l'énergie que produit la SNEL et d'autres opérateurs actuellement. Donc la ville de Kinshasa consomme plus ou moins plus de 50% de l'énergie qui est produite au niveau national. Donc comprenez que si seulement on a des problèmes à Kinshasa, ça doit être très grave partout. Et donc, comme je le disais, je venais de Mbandaka il y a un mois. Effectivement, la SNEL n'est pas à ce moment capable de distribuer de l'énergie. Ils sont plutôt en train de travailler pour réhabiliter le réseau.
Emmanuel Moussouyou.
Et faire fonctionner à nouveau.
Emmanuel Moussouyou, est-ce qu'on peut dire que le changement à la tête de la SNEL peut améliorer quand même la gestion ou la politique des gestions de l'électricité dans notre pays?
Le changement doit être assez profond. Le changement ne doit pas être basé sur des actions plus ou moins populistes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, la SNEL est une des entreprises qui connaît beaucoup de problèmes de gouvernance. Aujourd'hui, la SNEL est une des entreprises qui peine à maintenir ses infrastructures. La SNEL connaît des problèmes, en fait, des dettes extérieures, vis-à-vis de l'extérieur, comme aussi il y a des institutions nationales au niveau de la RDC, qui doivent, ou le gouvernement congolais doit beaucoup d'argent à la SNEL. Et tous ces aspects-là ne peuvent pas permettre à la SNEL de bien se démarquer. Mais tout dépendra du niveau de management, mais aussi tout dépendra d'une meilleure planification. La SNEL doit aller au-delà de l'énergie qu'elle produit au niveau de Inga et au niveau d'autres centrales, parce que c'est pas suffisant. La SNEL doit se projeter pour aller aussi dans la production de l'énergie, ça peut être du solaire et d'autres solutions applicables pour que la situation change. Je vous assure, si on reste dans le statu quo, si on ne produit pas d'électricité, on n'ajoute pas des mégawatts dans le réseau national, là, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement formel au niveau de la SNEL. C'est un peu pour répondre aussi à la dernière sortie du ministre qui était à l'aéroport pour inspecter et il a signifié que l'une des actions que le ministère a pris, c'est celui d'amener un transformateur à l'aéroport. Mais la question que nous posons, on va amener un transformateur pour consommer quelle énergie? Parce qu'il y a des coupures au niveau de la SNEL, de l'aéroport, pas parce qu'il y a un manque de transformateurs, mais parce qu'il y a insuffisance d'énergie disponible. C'est comme ça que je disais, les actions doivent être plutôt stratégiques, pas populistes, pour qu'on essaye de trouver une solution. Et pour revenir à une préoccupation que notre ami de Mbandaka disait, et donc aujourd'hui, à l'attention de tout le monde doit connaître que le secteur est libéralisé. Qu'est-ce que nos gouverneurs de province font pour booster des investissements dans le secteur? Qu'est-ce que les ministres provinciaux de l'énergie font pour attirer des investissements, pour amener de nouveaux financements dans les secteurs, de sorte qu'il y ait plus de production d'énergie? il y a un déficit important en termes de capacité des acteurs au niveau décentralisé sur la compréhension de la décentralisation énergétique, mais aussi sur la compréhension de la libéralisation du secteur. Et donc ça, c'est une action qui doit être orientée vers toutes les provinces pour que nos autorités provinciaux comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Ils ne doivent pas tout attendre du niveau national. Ils peuvent mobiliser des capitaux au niveau de leur province. Ils peuvent créer des incitations pour que des investisseurs viennent. Ça, c'est une chose. Une autre chose que je voudrais dire par rapport à une intervention, c'est qu'aujourd'hui, on doit noter que la RDC n'est plus capable d'exporter de l'électricité. En 2004, on était capable certainement de donner de l'électricité à Congo-Brazzaville, à la Zambie et à d'autres provinces, mais aujourd'hui, on n'est plus capable de donner de l'électricité à l'étranger. On est par contre dans un déficit important parce qu'on n'investit pas autant dans la production d'électricité. Et donc c'est le cas pour, c'est justement pour répondre à notre ami de Bounia, même aussi notre ami de Kananga pour dire que voilà, il faut qu'on augmente le financement du secteur. C'est ça la solution. Il n'y a pas une autre solution. Nos députés nationaux et provinciaux qui votent de loi, les lois de finances, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent aujourd'hui s'intéresser à ce que dans les lois de finances, qu'il y ait suffisamment de budget réservé à l'électrification rurale, qu'il y ait suffisamment de budget orienté à, n'est-ce pas, à la production de l'électricité.
Bien.
Les députés,
un instant,
et les
Emmanuel,
autorités doivent aussi s'intéresser.
D'accord. Un instant, on va accueillir les auditeurs.
Ce qui concerne, peut-être que juste finir cette phrase-là pour dire, elles doivent s'intéresser aussi à ce qui concerne la fiscalité. Parce que la fiscalité aujourd'hui, elle est très élevée pour le secteur de l'électricité et la parafiscalité. Ça ne permet pas que certaines entreprises viennent. Elles ne sont pas à l'aise d'investir. Donc ça aussi, c'est un élément assez important que nos autorités, nos députés doivent suivre.
Bien. Le secteur a été libéralisé, mais il y a peu d'investissements parce qu'il y a beaucoup de trop de fiscalité. Et puis, il n'y a pas... pour créer des mesures d'incitation pour que les investisseurs viennent investir dans les secteurs de l'électricité et pour afin de faire face à ces déficits. Laurent, vous êtes à Kisangani, Aloïs, lui, vous êtes à Luisa et Elvis à Kinshasa. Laurent de Kisangani, bonjour. Quelle est votre question par rapport à l'accès à l'électricité?
Bonjour monsieur Jozi Kachama, bonjour aussi à l'invité.
Bonjour Laurent, on vous écoute.
Alors, avant de poser la question, je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, dire que Kisangani est la troisième ville du pays. Je ne sais pas si c'est sûr de la troisième ville, puisque si vous arrivez dans cette belle ville de Kisangani, déjà, à l'arrivée de l'aéroport, si vous parcourez pour arriver au centre de ville,
il n'y a pas de courant.
Tout à fait. Alors, la population bohémaise se débrouille quand même et se cherche pour... savoir comment trouver un moyen pour se procurer de l'énergie. On se cherche pour avoir les batteries, avoir les panneaux solaires et d'autres avec des groupes d'électrogènes. Mais cela ne suffit pas quand même à ce que la population puisse s'autosuffire dans ces moyens de développement. Autrefois, beaucoup utilisaient les dynamos électriques, mais aujourd'hui, beaucoup utilisent plutôt les groupes électrogènes, ne serait-ce que pour piler les ponts doux. Beaucoup utilisaient les courants pour utiliser dans les distros, dans les entreprises. Alors, la question que je voudrais poser à l'invité, comment est-ce que la population congolaise peut espérer un développement alors que les arrêts en électricité, ça pose toujours des problèmes. Il a évoqué la question des partenaires. Alors, je ne sais pas comment est-ce que les partenaires peuvent... vouloir venir investir dans ce domaine alors que nous savons comment est-ce que nos dirigeants travaillent. Quand les partenaires viennent par exemple avec un projet, il y aura peut-être une rétrocommission
par les
autorités. Alors, oui, la rétrocommission. Alors, ça pose aussi des problèmes pour que les investisseurs viennent pour développer dans les secteurs. Nous avons aussi des potentialités. Nous comptons toujours sur les énergies hydrauliques, alors que nous sommes dans un pays qui est traversé par l'équateur avec du soleil. Ici, même si la caractéristique de notre climat est qu'il fait abondamment durer toute l'année, mais chaque jour, nous avons quand même le soleil. Avec l'installation des panneaux photovoltaïques, on pourrait avoir des centrales solaires qui pouvaient servir la population congolaise avec cette barrière en énergie. Là, je vais évoquer la question de nos députés. Les députés, nos députés provinciaux nationaux, on ne sait même pas ce que c'est.
Laurent, on va donner la parole aux autres. Merci beaucoup. On va donner la parole aux autres. Merci d'avoir appelé. Aloïs, vous êtes à Louisa. Bonjour. Bonjour, Aloïs.
Allô? Merci bien, monsieur Jody. D'emblée, je vous décris la situation. Oui, alors?
Oui. Décrivez la situation à Louisa. Il n'y a pas de courant, hein, j'imagine déjà.
Je vous décris la situation de Louisa. Nous sommes dans le noir qui ne dit pas son nom, monsieur Jody.
Ah, voilà.
Il y a 2 à 3 jours passés, j'ai reçu un enquêteur venu avec un sondage dans le cadre de l'Agence nationale pour l'électrification et les services énergétiques. En milieu rural et périurbain, je crois que c'est ANSER à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Mmh. Ce qui m'a plus préoccupé en recevant cet enquêteur, c'est que le travail qu'il fait est un programme initié par le gouvernement congolais, qui au départ a débloqué des fonds colossaux pour certaines étapes préalables à la réalisation du programme aussi ambitieux comme celui-ci. Mais en aval, vous comprendrez ensemble avec moi que le même gouvernement, avec son agence, vont perdre des vies pour aller jusqu'au bout avec ce programme. Et à la suite de notre entretien avec l'enquêteur, de lanceur, plusieurs solutions étaient envisageables.
Ici,
à Louisa, ce n'est secret pour personne. La nature nous a bénis. Les rayons solaires sont permanents. Nous sommes plutôt entourés de grandes rizières qui ont des chutes capables de produire du courant, si seulement on s'y impliquait. Mais monsieur Jody, le comble, c'est que Louisa, mon territoire, est dans les oubliettes. Votre SNEL dont vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure là, je me demande, c'est une question que je pose à l'invité, si la lettre N qui est dans SNEL qui renvoie au qualificatif national là, a vraiment sa raison d'être dans ça.
Parce que Louisa est dans le noir.
Louisa est dans le noir que je ne sais pas qualifier, je ne sais pas quel vocable il faut utiliser pour qualifier le noir que Louisa est en train de traverser ou dans lequel Louisa est plongée, monsieur Jody Daniel. Et je me demande si, effectivement, le concept national qui est dans ce SNEL-là existe effectivement. Louisa n'est-elle pas l'une des composantes de ce pays, donc la RDC? Ce sont des questions que je pose à votre invité.
Bien, merci beaucoup Aloïs depuis Louisa dans le Kasaï central. Elvis, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bonjour Elvis.
Bonjour, j'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au manque d'électricité dans nos quartiers là?
Vraiment, c'est une situation qui est un peu alarmante. Je pense que nous, peut-être les auditeurs, on a fait le parcours dans tous les coins. On a écrit des Kisangani, des Lubumbashi, tout, les gens appellent et ils décrivent. Et si nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes en train de décrire ce que nous voulons, même vous savez, vous êtes témoins. Chez vous, s'il y a du courant, vous pouvez aussi en témoigner, parce que vous nous demandez de témoigner, mais vous aussi êtes témoin, vous êtes quinois. Mais c'est que nous...
Alors, là où vous êtes, Elvis, vous êtes où? Vous êtes, j'imagine, vous êtes à Matete pour l'instant, ou...
À Matete, je suis dans Matete, j'habite Vitamine, mais mes activités sont au marché.
D'accord.
Qu'est-ce donc... que je pourrais dire? Si vous constatez au niveau du marché, même aux endroits où vous arrivez, vous allez trouver que chaque boutique... un groupe à l'extérieur. Et des fois, encore, même maintenant, quand je vais sortir, vous allez comprendre, il y a chaque boutique a du courant. Il y a du courant,
un générateur à l'extérieur.
Ils allument. Mais la facture, parce que j'ai toujours dit ça, la facture qui arrive à la fin du mois, nous payons le montant ne fait qu'augmenter. Alors, mais nous ne bénéficions exactement les qualités ou la qualité du service qui est due à ce que nous payons.
Mais à côté de nous, nous avons peut-être la galaxie. Il y a la supermarché de la galaxie. Ils allument leur groupe de 6h à 22h. Ils mettent leur caméra. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance à notre courant.
6h à 22h, tous les jours, j'imagine la consommation en carburant, c'est énorme.
Tous les jours, de 6h à 22h. C'est pourquoi quand vous arrivez là-bas, à l'extérieur, les 200 francs, les 300 francs qui restent sous les restes, ils les récupèrent.
Quelle est la question? Vous vous posez la question de savoir, les factures de la SNEL arrivent régulièrement, mais le service n'est pas de bonne qualité.
Et la deuxième question qu'il voulait parler, il a dit que le secteur a été délibéralisé.
Oui.
Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui peut peut-être commencer à le faire, vous savez, ici au Congo, quand quelqu'un veut peut-être, il y a une société qui veut maintenant se servir. D'abord, les agents, les factures qu'il va payer d'abord, les documents qu'il doit remplir, c'est plus même l'agent qui va dépendre pour commencer l'entreprise. Ça peut même décourager la personne. Ça peut être une des raisons que vous voyez que ce secteur, les gens ne s'enfuient pas.
Alors, le secteur a été libéralisé, mais il n'y a pas assez d'investisseurs qui...
C'est parce qu'il y a assez de réclamations, assez de documents qu'il faut remplir. Alors que vous savez que dans ce secteur, nous avons des faiblesses. Pourquoi ne pas les libéraliser et modifier aussi les conditions pour que les gens puissent aussi s'investir?
D'accord, merci pour toutes ces préoccupations. Comment en finir avec le manque d'électricité dans nos quartiers? Emmanuel Moussouyou, qu'est-ce que vous pouvez dire quelle réponse vous pouvez réserver aux auditeurs?
Alors, merci beaucoup pour toutes ces interventions-là. Je pense que elles sont assez pertinentes. Notre ami de Louise se demande si seulement... La mention nationale de la SNEL
a sa raison d'être.
Vraiment, c'est le cas. Oui, il a sa raison d'être. Non, je pense que aujourd'hui, on doit considérer que la SNEL a beaucoup de limites. Il faut pas, n'est-ce pas, attendre à ce que la SNEL vienne répondre aux besoins d'électricité à Louisa ou je ne sais pas dans quel autre coin. Et parlant encore une fois de plus de la libéralisation, c'est que, en réalité, si seulement nos autorités jouent le rôle qu'ils doivent jouer, il doit y avoir des nouveaux opérateurs qui viennent faire face à la SNEL, un peu comme, par exemple, aujourd'hui à Goma. Les gens doivent savoir qu'à Goma, aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs. Il y a plusieurs opérateurs, un peu comme, par exemple, Virunga. Il y a d'autres comme Soukodé qui sont des challengers à la SNEL. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, à Goma, Virunga produit plus de 13 mégawatts, alors que la SNEL n'en a que plus ou moins 5 mégawatts.
Et comment ces sociétés Virunga, par exemple, arrivent à s'en sortir avec une fiscalité trop élevée, comme vous l'avez dit tout à l'heure?
Non, c'est un sérieux, c'est des gymnastiques assez importants et je dois le mentionner ici. Ces opérateurs qui essaient d'émerger aujourd'hui, on cite Virunga, on cite Nourou, on cite Soukodé. Le cas de Virunga et Nourou spécifiquement, c'est qu'ils bénéficient au-delà de tout de quelques subventions. Vous voyez, ils ont des projets qui sont subventionnés par certains partenaires, ce qui facilite un peu la tâche, rassurez-vous. Une fois ces subventions s'arrêtent, Virunga, Nourou auront des problèmes sérieux parce qu'ils vont faire face à plus de 80 taxes. La CORAP a publié un rapport où il a démontré qu'il y a plus de 83 taxes qu'il faut payer chaque année par un opérateur.
83.
Et cela a un impact aussi sur le coût de l'électricité. Oui. Et cela a un impact aussi sur le coût de l'électricité. Et finalement, le consommateur final, la population que nous sommes, qui paye cela définitivement. Donc, nos amis de Louise a aidé partout. Ce que nous devons faire, nous devons prendre conscience et nous devons faire pression à nos autorités au niveau local. Et nous devons faire à nos autorités au niveau national pour qu'ils allègent, qu'ils créent un cadre d'investissement allégé et attractif pour le secteur de l'électricité, de sorte qu'il y ait plusieurs opérateurs. Je voudrais dire autre chose pour... notre ami de Kisangani qui a aussi peint un tableau assez clair. Oui, le secteur connaît beaucoup de problèmes, bien évidemment. les rétrocommissions à l'Équateur, par exemple, en Mbandaka où j'étais, il y a une entreprise américaine qui était venue et voulait commencer, n'est-ce pas, des investissements dans le secteur. Mais cette entreprise, aujourd'hui, connaît beaucoup de soucis parce qu'il y a une catégorie d'autorités qui a exigé ou qui ont exigé qu'il y ait des rétrocommissions avant même que le projet ne commence. Et ça, ça se vit un peu partout. Mmh. Au-delà de cette question de rétrocommission, c'est aussi la rapidité des institutions à répondre aux demandes de concessions, aux demandes de licences que font certains opérateurs. L'ARE aujourd'hui est en train de se déployer, mais il y a encore beaucoup de défis. Dans ce sens que il y a de ces entreprises qui ont demandé, qui ont introduit des dossiers il y a plus de 6 mois, plus d'une année, n'arrivent pas à trouver des réponses adéquates. Donc l'ARE doit maximiser son action pour que les résultats soient fameux et que rapidement des changements soient opérés. Et une autre chose, encore une fois de plus, et nous avons recommandé au gouvernement, il y a peu, c'est que il faut renforcer les capacités des acteurs. D'ailleurs, j'avais commencé mon propos en disant que si on veut réellement que le secteur de l'électricité soit une priorité, la demande que la CORAP adresse solennellement aux autorités, c'est que le secteur de l'électricité doit être, on doit décréter dans le secteur un état d'urgence énergétique.
Un état d'urgence énergétique. Qu'est-ce que cela veut dire, un état d'urgence énergétique?
Un état d'urgence énergétique signifie que le gouvernement dorénavant doit augmenter les financements du secteur pour la production de l'électricité. D'une part. Deuxièmement, le gouvernement doit mettre en place une politique attractive, une fiscalité attractive pour qu'il y ait plus de partenaires qui viennent investir. Parce que de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on accroît les financements de projets énergétiques au niveau gouvernemental et on permet aux privés d'accroître aussi des investissements pour plus de production d'énergie. Un état d'urgence énergétique signifie que la question de la parafiscalité. On paye plus de 83 taxes et impôts. Il faut qu'on trouve une solution sur, par exemple, on peut se donner un délai pour dire dans les 10 prochaines années, parce qu'on veut que le secteur d'électricité décolle, il y a des sacrifices à faire, il y a des taxes qu'on doit supprimer, et il faut qu'on réfléchisse sur comment autrement on récupère nos bénéfices, mais qu'on favorise plus l'investissement dans le secteur. Un état d'urgence fait aussi appel au renforcement des capacités des acteurs.
Un instant, Emmanuel. Emmanuel, permettez le temps d'accueillir deux auditeurs, Étienne Demague et Augustin Moulangou de Mbujimaï. Étienne, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachemot. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question par rapport à l'accès au courant électrique?
Merci, je suis Daniel Kachemot. De prime abord, je dois vous dire que dans ce pays, la République démocratique du Congo, on a beaucoup parlé, on a beaucoup fait de meilleures propositions, mais malheureusement, sur le terrain, rien ne marche et on constate aucun changement. Je vais dire un exemple, je dis Daniel. Je suis ici dans la commune de Mahdi. Mahdi, c'est une commune qui est dans le noir depuis longtemps. Et on avait cru qu'avec le régime passé de Joseph Kabila, Mahdi devait aussi bénéficier d'un petit micro-central, malheureusement, ceux qui n'étaient pas venus. Alors que, dans le territoire de Mahdi, nous avons une petite micro-centrale à Lida, sur la rivière Lida. Une centrale qui devrait normalement desservir presque la moitié de la population du territoire de Mahdi. Malheureusement, rien n'est marché. On ne sait pas à quand les choses vont. Avec le régime de Fatih, on est en train de dire que presque à la fin du mandat, et rien n'est marché. Donc, Mahdi est près d'aller noir. Je ne sais pas si nos parlementaires pensent à ça. Et il doit quand même plaider fortement pour que des petites agglomérations qui contiennent quand même des petites rivières qui peuvent desservir la population, ils plaident pour qu'elles puissent être paix conçues. Voilà un peu, je dis, ma petite contribution. Merci.
Bien, merci beaucoup, pour cette intervention depuis Mahagi, Étienne. Mahagi, c'est dans la province de Litouri. Augustin Moulangou, vous êtes à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Augustin Moulangou.
Merci beaucoup pour la thématique du jour. Alors, je voudrais dire que la ville de Mbujimayi, c'est le chef de l'île. Le chef de la province du Kasaï oriental, mais nous sommes dans le noir. Alors, on se demande si la SNEL existe réellement. Alors que le seul courant que nous pouvons voir, c'est le courant de Tubidi, qui dessert la population en électricité, mais c'est un courant qui appartient à une société. Mais des fois...
Et Augustin, il semble que le courant... Et il semble que le courant de Tubidi, ça coûte cher, l'abonnement coûte cher. Allô?
Allô?
Oui, je disais que il semble que le courant des Tubidi, ça coûte cher, hein? C'est pas accessible à tout le monde.
Bon, pas tellement, c'était au début là que ça coûtait cher, mais présentement ça ne coûte pas énormément cher.
Vous payez combien par exemple le mois, l'abonnement?
Pardon?
Combien vous payez pour l'électricité, la consommation du courant de Tubidi?
Bon, ça dépend aussi de l'utilisation. Il y a ceux qui ont pris la ligne commerciale, alors pour distribuer aux autres, alors ceux qui ont des cabines peuvent verser 10 dollars par mois, quelque chose comme ça.
D'accord, merci d'avoir appelé. On a pris beaucoup de temps, on est presque à la fin de l'émission. Alors Emmanuel Moussouy, on va conclure. Vous avez parlé de l'état d'urgence énergétique. Vous étiez en train de conclure en disant qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre dans cet état d'urgence énergétique.
Ben, il faut renforcer les capacités des acteurs. Les acteurs ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de la décentralisation énergétique et de la libéralisation. Mmh. Il faut donner de la matière à tous ces acteurs provinciaux pour qu'ils soient capables de bouger les lignes. Et je sais qu'ils sont capables de le faire, mais le problème c'est l'information, le problème c'est la capacitation. Et donc, je voudrais juste conclure en disant que la RDC est dans le noir. Chères autorités, cela ne doit pas nous réjouir de voir que ce pays qui a autant de ressources énergétiques, plus de 100 000 mégawatts en hydroélectricité, qui a un potentiel solaire, le plus faible potentiel de l'RDC, dépasse le maximum du potentiel solaire de l'Allemagne, dont le plus faible potentiel que nous avons dépasse le maximum.
Merci Emmanuel.
Alors qu'aujourd'hui l'Allemagne est parmi les plus grands leaders.
Merci
donc,
beaucoup.
Notre demande aux autorités, c'est de prendre conscience de mettre en place une planification énergétique, une politique énergétique et de financer le secteur pour que les actions soient cohérentes.
Merci.
Et que les résultats soient, n'est-ce pas...
Emmanuel Moussouyou, merci beaucoup. Vous êtes coordonnateur du COURAP, Coalition des organisations pour le suivi des réformes et de l'action publique. Merci d'avoir participé à cette émission et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.